Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage.
C'est du maroilles.
Hey, bon
du maroilles, c'est que ça.
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Vous voulez goûter?
Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
Le goût du monde.
C'est bon.
Clémence de Navi.
Oh, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on trempe dans le café.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Aujourd'hui, nous parlons d'un monument, d'une carte d'identité culturelle, défi pour certains. Il est icône sur les grandes tables, tout simplement super bon à partager les pieds dans l'herbe à l'air libre avec un petit couteau à la main. Pâte dure ou bien fondante, il se décline dans tous les pays du monde avec plus ou moins de passion. Et la France en est, dit-on, le pays la référence. Aujourd'hui, nous parlons de fromage, bien sûr. En ligne avec nous, Augustin Denoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fromager crémier à Boulogne-Billancourt. Alors là, c'est à l'ouest de Paris, deux boutiques et l'auteur de Fromage Sauvage. C'est un livre qui est paru aux éditions Ulmer, un livre magnifique, des photos signées Erwan Balança. Alors je vous conseille à tous qui êtes à côté de votre radio de tendre l'oreille car nous vous proposons justement à la fin de l'émission de gagner un livre. Le quiz, ce sera à la toute fin d'émission, donc restez bien à l'écoute. Le fromage donc, Augustin Denoux, c'est tout un monde. On ne sait même pas par où commencer. Et fromage sauvage, alors, qu'est-ce que ça veut dire donc qu'un fromage sauvage ?
C'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange d'adjoindre fromage et sauvage, puisque bon, le fromage c'est quand même une création humaine, il n'y a pas de fromage qui pousse dans les arbres, ou du moins pas à ma connaissance. Et fromage sauvage, pourquoi ? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans l'univers du fromage, il y a beaucoup de diversité, et c'est une bonne chose, mais il y a à boire et à manger, puisqu'on a des fromages qui sont malheureusement souvent un peu trop industrialisé et fabriqué dans des conditions un petit peu trop mécanisées. Nous, on a voulu mettre en avant, avec Erwan Balança, au travers de ce livre, un petit peu les savoir-faire ancestraux du fromage et justement ces fromages sauvages qui sont des fromages du vivant.
Et si vous nous donniez justement, Augustin, à voir et à sentir, est-ce que vous pourriez nous emmener justement dans un endroit, celui que vous voulez, à l'heure que vous voulez, pour nous aider justement à comprendre un petit peu ce monde fromager, mais avec des sensations.
C'est vrai qu'en soi, le fromage fait un peu appel à tous les sens, évidemment à la vue, à l'odorat, mais également l'ouïe est énormément sollicité. Et oui, alors vous emmener en fromagerie, je vous propose de partir en Haute-Savoie. C'était l'un de mes premiers voyages fromagers il y a déjà un peu plus de 7 ans. Et c'était dans une ferme qui se trouve au niveau du plateau des Glières, la ferme de la Petite Neige, et ils fabriquent de l'Abondance. Et l'Abondance, donc c'est un fromage beaucoup plus petit que du Comté, mais c'est une pâte pressée cuite. Et dans ces ambiances-là, il faut imaginer qu'on est en alpage, donc vous êtes à 1700 mètres d'altitude, dans une ferme qui ne sert donc que l'été. Et là, vous êtes au-dessus des bêtes, puisque pour dormir, eh bien, on avait été accueillis par Patrick et Audrey, qui sont fermiers là-bas, et nous avaient proposé de dormir donc au-dessus des bêtes, puisque de façon traditionnelle, en Savoie, ainsi qu'en Suisse, enfin dans tout le massif alpin, on dort au-dessus des bêtes, puisque grâce à la chaleur des bêtes, eh bien, on n'a pas trop froid la nuit. Et le matin, vous êtes réveillé par une douce odeur de lait qui est fraîchement caillé, sorti du pis, et là, vous êtes déjà propulsé dans l'ambiance d'une fromagerie. Vous avez donc une immense cuve en cuivre avec ce lait qui est porté donc à température pour ensuite être empressuré et donc devenir fromage. Et vous avez cette odeur un petit peu aigre, légèrement acide qui commence déjà à poindre. Et puis vous êtes évidemment très vite emporté par des notes un peu plus florales. Et donc là vous êtes dans cette ambiance un peu chaude, humide dès le petit matin. Donc ça c'est assez unique comme moment.
C'est assez le bonheur en fait, non ?
Ouais, exactement, puisqu'en fait on est dans des moments qui sont suspendus, c'est-à-dire que véritablement le fromage c'est un produit, à mon sens, qui évoque beaucoup l'imaginaire collectif évidemment, mais pourquoi l'imaginaire ? Parce qu'il est aussi fabriqué à un moment particulier qui est tôt le matin vous avez la traite, ça dépend des fermiers, des pratiques, mais les traites ça va être entre 5h30, 6h, 7h du matin, et puis ensuite dès la traite terminée vous êtes dans la fabrication du fromage, donc jusqu'à 8h, 8h30, 9h, et ensuite à 10h, vous prenez un petit café pour un peu vous réveiller de toutes ces péripéties. Et c'est vrai qu'en soi, c'est ça qui est assez incroyable avec le fromage, c'est que le fromage, c'est un produit du matin et qui est dans ces instants un peu suspendu où rien ne se passe, tout le monde est encore endormi, que vous êtes déjà en train de travailler et de fabriquer des fromages extraordinaires.
C'est étonnant parce que l'ambiance que vous décrivez, on l'imagine bien, on a vraiment l'impression d'être avec vous auprès de ces vaches et dans ces montagnes où l'on produit de l'abondance. Cependant, ces images que vous décrivez sont des images qui correspondent plus à un siècle. c'est-à-dire au début du XXe siècle, on a envie de dire. Et on voudrait savoir pourquoi ce monde-là nous semble disparu aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'on peut penser que tout ça, c'est un peu une imagerie d'Épinal assez dépassée. Pourquoi aujourd'hui il y a une fabrication artisanale fermière qui est moindre par rapport au siècle dernier? C'est tout simplement parce que l'industrialisation qui a eu lieu dans tous les secteurs de la vie, le fromage n'y a pas échappé, et il y a donc des fabrications très importantes qui ont donc pris le pas, et petit à petit l'activité fermière a disparu. Faut pas oublier que aujourd'hui, donc le milieu agricole français, particulièrement le milieu laitier, donc il y a de moins en moins d'exploitations laitières en France. Pourtant, on collecte de plus en plus de lait. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais tout simplement parce que on propose, on incite, on impose peut-être parfois aux producteurs de produire du lait en quantité et d'arrêter de faire de la fabrication, ce qui est énormément de travail.
Également parce que la fabrication de ces fromages qui étaient avant fabriqués dans chaque village, dans chaque étable, chaque bergerie, on a presque envie de dire, elle est maintenant aux mains de grands fabricants. Est totalement industrialisé. Est-ce que c'est ça aussi la concentration de la fabrication de ces fromages qui a dépecé quelque part justement ce monde paysan?
Ben, avant, le fromage était vraiment pour de l'autoconsommation, ou alors une consommation qui était locale, vraiment réservée à un cercle d'une dizaine de kilomètres. Donc les fermiers ne voyaient pas le fromage comme un produit rémunérateur. On gagnait pas d'argent quand on vendait du fromage. On gagnait de l'argent quand on vendait du beurre, quand on vendait de la crème, des produits avec énormément de matières grasses. C'était ça qui était rémunérateur. Petit à petit, le fromage est devenu un produit rémunérateur pour les paysans, grâce au chemin de fer qui a permis d'envoyer le fromage à Paris et puis dans toute la France. Donc petit à petit, le fromage est devenu un produit intéressant économiquement. De fait, des personnes se sont dit, bon bah pourquoi pas industrialiser la chose, et puis après ça a pris évidemment du temps, mais aujourd'hui vous avez des acteurs qui proposent des produits qui sont assez uniformes, qui sont fabriqués dans un système que j'appelle hors sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de terroir, c'est des produits que vous allez retrouver toute l'année avec le même goût, la même saveur, parce que ça s'est accompagné du développement évidemment des grandes surfaces, etc. Donc c'est pas une question de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui ces fabrications-là standardisées, mécanisées, industrialisées, c'est ce qui a aujourd'hui la mainmise. Ce que nous on évoque dans Fromage Sauvage, c'est véritablement des paysans, des fermiers qui proposent autre chose. Alors, c'est un peu comme dans Astérix, hein, c'est un peu le dernier village de résistants, mais c'est pas cette image de résistant que nous on a envie de proposer, c'est plutôt une image positive en disant ça existe, il faut proposer, connaître ces fromages-là, parce que justement ce sont eux qui sont porteurs d'un message vivant et d'une agriculture qui est, à mon sens, pérenne.
Là, je vais vous proposer justement d'entendre la réaction de Guillaume Foucault. Il est cuisinier dans le Perche. Il m'a accompagné sur l'exploitation d'un éleveur qui s'appelle Ludovic Canu.
C'est génial de revoir des vaches ici, c'est génial. Moi j'ai jamais connu des vaches ici quand même, j'ai toujours connu que de la céréale ici. J'ai des vagues souvenirs de voir mon grand-père repartir en tracteur après le déjeuner quand j'étais gamin ici, quand j'étais gardé par ma grand-mère, mais j'ai jamais connu de vache ici, jamais, jamais. Ça fait quelque chose, hein. Et je pense que je suis pas le seul dans la famille, hein, mais ça fait vraiment quelque chose de revoir des vaches ici, vraiment, c'est émouvant, quoi.
Émouvant de revoir des vaches ici, parce que oui, l'industrialisation a fait qu'on a arrêté de mettre les vaches à la pâture, que ce n'était plus nécessaire. Votre réaction quand vous entendez ce genre de joie?
C'est des joies qui sont simples et qui sont belles, parce que le vivant, les animaux, les vaches, souvent on a malheureusement des propos assez clivants sur l'élevage. Et là je trouve ça chouette parce que, ben voilà, c'est de nous rappeler que ce lien avec l'animal, il est important en fait, parce que en tant qu'être humain, on est fait pour être lié avec ces animaux-là. Élever des animaux, c'est une belle chose, et on a trop souvent des discours qui sont binaires avec certaines personnes qui pensent que l'élevage, c'est forcément quelque chose de mauvais. Au contraire, ça nous rappelle, je trouve, notre humanité, et que lorsque l'élevage, il est pratiqué avec raison, avec évidemment des bons traitements, évidemment un lien avec l'animal, eh bien, comme on l'entend dans le reportage, c'est vrai que bah, c'est émouvant, parce que oui, c'est ça le vivant, c'est ça ce lien qu'on doit cultiver, et que trop souvent, c'est des productions hors sol qui font que bah, ça, c'est catastrophique. C'est les productions animal industriel qui cause problème. C'est pas un paysan avec 40 vaches, avec de la pâture et avec une fabrication de qualité qui pose problème.
Je dois vous dire que quand j'ai lu votre livre, j'étais un petit peu en colère au début, parce que j'ai découvert en le lisant que la France, eh bien, n'était pas finalement tant le pays du fromage que je pensais. Vous mettez des grands coups de pied et vous faites voler en éclats quelques croyances que l'on a, notamment nous ne sommes pas les premiers consommateurs au monde.
Et non. C'est vrai qu'on a un peu cette réputation et que lorsqu'on part à l'étranger, on se dit les Français, ce sont des mangeurs de fromage et de cuisses de grenouille. Et non, c'est vrai qu'on est dépassé par un trio scandinave qui mange plus de fromage que nous, par an, par habitant. Donc on est dépassé donc par le Danemark et l'Islande notamment. Et pour autant, bah après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus les premiers producteurs de fromage au monde. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal.
Et plus embêtant encore, j'ai envie de dire, concernant le lait cru. Parce que ce qui fait l'âme d'un fromage dont on parle d'ailleurs depuis le début de cette émission, c'est son côté vivant, son lait qui vit. On est d'accord ?
Exactement.
En lisant Fromage Sauvage, eh bien, je découvre que... Elle est de combien la part de fromage au lait cru en France ? Aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, en France, on fabrique quasiment 2 millions de tonnes de fromage par an. Et sur ces 2 millions de tonnes, il y a grosso modo 200 000 tonnes qui sont au lait cru. Donc ça veut dire 10%. C'est très peu.
Et justement, c'est ce qui avait provoqué une levée de bouclier au moment où on s'est attelé au camembert, par exemple. Le camembert au lait cru, c'est le camembert par définition. C'est celui dont l'appellation est protégée.
Alors oui, c'est vrai que beaucoup de personnes étaient vent debout à ce moment-là. C'était pour la défense donc de l'AOP du camembert de Normandie, puisqu'il y a quelque chose d'assez spécifique, c'est-à-dire qu'en France, un camembert, c'est une appellation définie, générique. Vous pouvez fabriquer du camembert partout en France et dans le monde, que ce soit au lait cru ou au lait pasteurisé. Mais le camembert de Normandie, qui lui est protégé par l'AOP, doit être au lait cru, moulé à la louche, etc. Il y a plein de critères. Et fabriqué en Normandie. Et par conséquent, les débats qu'il y avait actuellement pour la réforme de l'AOP et qui étaient de proposer donc d'avoir un camembert au lait pasteurisé et un autre camembert soi-disant haut de gamme qui serait au lait cru, c'est vrai que c'est extrêmement problématique puisque la défense du lait cru, c'est la défense du vivant et que aujourd'hui, tout vouloir standardiser, tout vouloir pasteuriser, c'est un véritable problème et que justement la traduction du terroir, elle n'est pas présente puisque c'est le lait cru qui fait que on a une idée du terroir et que le camembert de Normandie doit être au lait cru.
Il y a un autre fromage qui est assez emblématique, c'est la fourme d'Ambert. Alors c'est un fromage que je qualifie bleu.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de la fourme d'Ambert ?
L'origine même du mot fromage, il est lié avec le mot fourme. Donc c'est véritablement l'un des premiers fromages qu'on a fabriqué. La fourme d'Ambert, c'est un fromage donc traditionnel d'Auvergne, qui est donc un fromage bleu, donc type un peu roquefort, mais évidemment au lait de vache. Et la fourme d'Ambert, traditionnellement, donc c'est des fromages qui sont fabriqués au lait cru. L'appellation fourme d'Ambert, elle ne prévoyait pas que le fromage soit nécessairement au lait cru. Donc, des fabrications au lait pasteurisé se sont développées dans les années 70-80. Et aujourd'hui, quasiment l'intégralité de la fabrication de la fourme d'Ambert est au lait pasteurisé. Donc, c'est un fromage qui est affiné très peu de temps, qui est affiné quasiment un mois. Et ben voilà, aujourd'hui, vous avez 98% de la fabrication de la fourme d'Ambert en Auvergne, qui est 100% pasteurisé avec du lait de vache Primolstein. Donc la vache Primolstein, c'est donc une vache qui nous vient de Hollande et qui est une vache extrêmement productive. C'est la vache blanche et noire. C'est celle qu'on trouve le plus en France. Et c'est vrai que, eh bien malheureusement, ça ne traduit pas la richesse du terroir auvergnat, puisque en Auvergne, vous avez des races de vaches, vous avez la Salaire, traditionnellement, mais vous avez aussi, un petit peu plus bas, c'est dans l'Aveyron, mais c'est aussi des très belles vaches. Vous avez l'Aubrac, qui sont des vaches extraordinaires. Et aujourd'hui, la fourme d'Ambert, c'est simplement une fabrication qui est à 98% industrielle et pasteurisée.
Et assez symptomatique, en fait, de pas mal de fromages en France aujourd'hui.
Oui, bah après, en soi, il y a certaines appellations d'origine protégée qui ont, dès le début, prévu dans leur cahier des charges des limites, en prévoyant donc que ce soit au lait cru, que des méthodes d'alimentation particulières soient proscrites. Enfin, c'est comme dans tout, à partir du moment où vous proposez des règles et que vous dites, pour fabriquer ce fromage, il faut suivre ce cahier des charges, cette méthodologie, plus vous avez quelque chose qui est contraignant, exigeant, plus vous avez des fabrications qui sont de qualité. Malheureusement, il y a quelques cahiers des charges en France qui étaient assez laxistes. Eh bien voilà, le diable est dans les détails. Donc beaucoup d'industriels se sont donc glissés là-dedans pour justement fabriquer des fromages avec un peu ce triptyque qui est la pasteurisation, des vaches donc qui sont des vaches pas liées au terroir, donc principalement des vaches Primolstein, et puis d'avoir une nourriture le plus souvent ce qu'on appelle de l'ensilage, donc c'est-à-dire que les animaux ne sont pas à l'herbe et ils sont remisés dans des bâtiments.
Justement, j'aimerais juste que vous me disiez, qu'est-ce qui fait le goût du fromage ? Il vient d'où ce goût du fromage ?
C'est ça qui est magique en fait avec le fromage, parce que on part d'une base qui est donc Le lait. Le lait, c'est l'aliment que, voilà, nous tous, les mammifères, c'est le premier aliment qu'on a tous connu. Et ce lait, qu'il soit de vache, de brebis, de chèvre, en fonction de l'endroit où vous êtes, en fonction de la pâte de la fromagère ou du fromager, en fonction des conditions météo, tellement de facteurs entrent en ligne de compte, l'aléa est tel que c'est ça qui est magique avec le fromage, c'est que tous ces possibles vont réussir à créer quelque chose d'unique avec une texture, avec une saveur. Et cette richesse, justement, quand on parle du lait cru, de la richesse du lait, c'est quoi? C'est une richesse qui, aujourd'hui, ce sont des mots qui font un peu peur, mais c'est des richesses qui viennent des microbes, des micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils sont absolument essentiels pour nous, êtres humains, mais pour l'environnement, pour qu'on soit dans une symbiose avec nous-mêmes, puisque ce microbiote qui existe, eh bien, il est d'une richesse et d'une diversité telle que c'est ça qui finalement fait la saveur et fait la typicité de tel ou tel fromage, et donc fait le goût, in fine, du fromage.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Janis Joplin, Summertime sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde et la vie qui rejaillit en même temps que cet été chanté, vivant aussi. Le fromage dont nous parlons aujourd'hui, sauvage même, fait de terroir et d'histoire. Notre conteur et crémier fromager, Augustin Denoux, à Boulogne-Billancourt, auteur de Fromage sauvage, un manifeste pour le vivant paru aux éditions Ulmer. C'est vous qui avez choisi cette chanson, Augustin, Summertime. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson?
Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange de choisir une berceuse psychédélique pour célébrer le vivant et la nature. Pourtant, c'est un peu au printemps que tout renaît et l'été, la vie est véritablement à son apogée. Et moi, ce Summertime de Janis Joplin, à chaque fois, il me prend un peu au trip, un peu comme lorsque, avec l'équipe de la fromagerie Escudier, on essaye de se rendre de temps en temps chez nos paysans. Et c'est toujours un moment assez unique d'aller dans une ferme, puisque ce partage avec les paysans, le vivant et puis les animaux et tous ces moments-là, c'est vrai que c'est toujours assez magique de vivre la naissance d'un fromage.
D'ailleurs, dans le livre, on découvre Laetitia Benoît en Bretagne. On a tous les noms de ses producteurs, donc on peut voir comment ils travaillent, comment ils en sont venus à travailler dans le fromage. Donc, on a des très très beaux portraits. Ce fromage, historiquement, à la base, quand même, on l'a dit, c'est du lait, et c'était un moyen de conservation du lait avant les réfrigérateurs, avant tout ça, les chambres froides.
Exactement, oui. C'est ce qui est assez amusant avec le fromage, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fromage, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Récent à l'échelle de l'humanité, puisque nos ancêtres, Homo sapiens sapiens, qui existent donc depuis 200 000 ans, ça fait seulement 10 000 ans qu'on pratique donc l'agriculture, et à peu près concomitamment, le fromage a été créé. Alors comment ça s'est créé? C'est vrai que l'histoire de l'humanité, c'est véritablement la survie. Et la survie, ça passe nécessairement par l'alimentation. Et pour le fromage, c'était un moyen de conservation absolument extraordinaire qui a été trouvé un petit peu par hasard, puisque quelqu'un, on ne sait pas qui, a compris que le lait fraîchement ingurgité par un veau dans son estomac se transformait et devenait solide. Donc, c'est dit, c'est quand même étrange que ce lait liquide devienne solide et que lorsqu'il est solide, ça se conserve mieux et pourquoi pas en faire un aliment.
Qu'on peut conserver un peu longtemps. On a vu dans notre émission sur la mounée, c'est-à-dire la préservation et la conservation des aliments au Liban, qu'on en faisait des fromages, des petites boules qu'ensuite on séchait et qu'après on pouvait réhydrater pour faire des soupes pendant l'été. Mmh. En Afrique, ce fromage, il existe évidemment, notamment avec les Peuls, qui ont une tradition d'élevage, un savoir-faire, qui sont nomades et qui se sont sédentarisés. Leurs troupeaux sont précieux et à la source de leur alimentation, m'expliquait la chef ghanéenne Binta. Elle est chef de Fulani's Kitchen à Accra.
Pour les Peuls et les Haoussa, le fromage, c'est comme une gourmandise. Traditionnellement, les Peuls sont des éleveurs et le bétail est précieux. Le lait est au cœur de notre alimentation. On le consomme frais ou chaud ou caillé. La cuisine Peul repose sur le bétail, les vaches et ce qu'elles nous apportent. Le lait, le yaourt, le beurre et la viande, bien sûr. Les vaches sont traites deux fois par jour et le lait conservé dans des conteneurs, des calebasses. On en fait un fromage local. Quand une vache est tuée, sa viande est séchée au soleil et mangée pendant un ou deux mois. On la réchauffe deux fois par jour en la mettant sur les couvercles des marmites ou sur les pierres de feu. La viande est rare. Le lait et le fromage sont vraiment là pour remplacer la viande quand il n'y en a pas.
La chef ghanéenne Binta qui nous parle donc de ce lait et l'importance de ce lait. Vous connaissez l'Afrique un peu, je crois que vous êtes allé à Madagascar et vous y avez découvert un fromage aussi.
C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller à Madagascar il y a déjà 4 ans et au sud d'Antananarivo, il y a une ville qui s'appelle Antsirabe et Antsirabe, donc c'est une grande tradition aussi de fabriquer du fromage, donc pareil au lait de vache ou au lait de zébu. Et là-bas, ils ont donc lancé toute une fabrication avec, vous avez des fromages type raclette, des bleus. C'est ça qui est assez magique avec le fromage, c'est qu'on en trouve un petit peu partout et en fonction des endroits, et bien voilà, ils ont des saveurs différentes. Et moi, j'avais trouvé ça assez extraordinaire, le yaourt au lait de, c'était un yaourt que j'avais goûté au lait de zébu, j'avais trouvé ça absolument super. C'était des saveurs un petit peu comme, vu que le zébu, c'est aussi un peu proche de la bufflone, il y a toujours ce côté un petit peu plus riche, un petit peu plus gras, et ses saveurs délicatement lactées. Donc moi, j'en avais un très bon souvenir. Et puis en plus, quand vous êtes à Madagascar, au mois d'octobre, il fait un petit peu chaud. Et donc, c'est toujours rafraîchissant d'avoir ces yaourts qui sont absolument délicieux.
Ouais, la consommation en yaourt, en lait caillé, qu'on met ensuite avec des céréales. Je pense par exemple au dégué, qui est un petit déjeuner très classique en Afrique subsaharienne. Il y a le fromage de caravane aussi, qui est fabriqué avec du lait de chamelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté, celui-ci.
Jamais.
Moi non plus, pas encore. Et au Bénin. Je crois que vous m'avez appris, après avoir écouté RFI d'ailleurs, qu'il y avait un fromage un peu particulier produit au Bénin.
Oui, c'est drôle, il y avait une émission de RFI que j'avais écoutée sur justement le camembert, donc au Bénin. Donc il y avait un jeune homme qui avait lancé une fabrication de camembert. Et voilà, donc c'est pour ça que le camembert dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le camembert de Normandie, doit être fabriqué en Normandie, mais le camembert n'a pas de protection a priori. Et donc voilà, donc ça fait depuis maintenant 3-4 ans qu'ils ont lancé ça pour justement proposer des fromages un peu différents. Moi, je trouve ça absolument génial que, voilà, au Bénin, on puisse, je crois que c'est à 2 heures de Cotonou, on puisse manger du camembert, puisque c'est important aussi d'avoir des productions locales, puisque ça sert à rien de fabriquer des fromages en France pour ensuite les exporter et éviter ces productions locales. Justement, je trouve ça une vraie richesse que, localement, on puisse fabriquer des fromages avec du goût.
Ben alors, vous avez vraiment de la chance, parce qu'il n'y a pas seulement que le camembert du Bénin, on a également le wagashi.
Ah oui.
Hein, le wagashi, qui est quand même le fromage traditionnellement produit en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. C'est Sayouba Traoré qui était allé voir un petit peu les procédés de fabrication de ce fromage.
À Bekiga, les hommes font la traite des vaches et les femmes fabriquent le fromage traditionnel. C'est Fatouma Yandimi, la doyenne, qui officie, car ce sont les femmes qui détiennent le savoir.
Maintenant, elle dit qu'elle va essayer de voir la quantité du lait et c'est à bas de cette quantité qu'elle ira chercher les feuilles du calotropi.
Donc là, il y a une mesure de
4, 5, 6,
Ça fait 7.
Oui. La doyenne met le lait à bouillir pendant que nous allons dans les buissons pour cueillir les feuilles de Calotropis procera.
Qu'elle est en train de cueillir les feuilles.
Donc il y a 7 mesures de lait, elle a pris 7 feuilles. Donc là, elle vient piler ces feuilles-là. C'est tout?
Comme ça, ça va.
D'accord. Quand le lait commence à bouillir, Fatouma Yandemi y verse la sève de la plante, ce qui a le don d'extraire l'eau du lait tout en préservant les matières grasses. Le reste du travail est affaire de filtrage.
Je vois comment la couleur a changé.
Ah oui,
c'est le lait qui attire la sève des feuilles.
C'est pour ça que le lait a la couleur verte, là.
Elle demande de voir l'eau, là. Mm-hmm. Elle a vu l'eau.
Ah oui, il y a le fromage au fond et l'eau...
Qu'elle va chercher le tamis et va prélever de l'eau là et ça va rester du fromage.
Maintenant c'est bon là.
Elle dit que c'est bon de voir. Vous avez vu?
Le fromage ainsi obtenu peut être conservé sur le long terme. Pour sa part, Fatouma Yandemi attend d'obtenir 4 fromages pour aller les vendre au marché du village à 700 francs CFA pièce. À la fin de la semaine, cette activité lui procure 2800 francs CFA, soit environ 4,30 €.
Augustin Denoux, que vous inspire donc cette feuille de Calotropis?
C'est très intéressant puisque c'est vrai que pour que le lait liquide devienne solide, il y a plusieurs techniques. Donc la plus répandue, c'est la présure, donc la présure qui permet d'avoir ce changement d'état. Et c'est vrai qu'il y a des fabrications de fromage qui sont faites à partir de plantes. Donc vous avez la plante dont on a entendu parler. Et vous avez aussi le figuier, par exemple les feuilles de figuier, ça fonctionne aussi. C'est traditionnel au Portugal de faire des fromages avec ça. Et ça joue le rôle de coagulant. Donc le coagulant fait que le lait passe de l'état liquide à l'état solide. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant puisque c'est d'autres textures, c'est d'autres saveurs. Et ce qui est aussi un peu dans cette dynamique un peu de fromage sauvage, c'est de proposer des façons qui expriment véritablement tout le potentiel, toute la richesse du lait à la base. C'est ça qui est intéressant.
Du lait et du territoire et des traditions et des savoir-faire, j'imagine?
Exactement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous tapez sur Internet ferment Saint-Nectaire, vous pouvez très bien prendre du lait, mettre un petit peu des ferments, et puis vous avez un fromage qui va ressembler à du Saint-Nectaire. Toute la richesse de ces fromages sauvages dont on parle, nous, dans le livre, c'est justement... Beaucoup de paysans font ce qu'on appelle leur propre levain. Donc leur propre levain, c'est le même principe que pour un levain pour le pain, que pour la bière. Eh bien, c'est simplement avoir sa propre culture microbienne qui va justement se tapisser de toute la richesse de l'endroit, du milieu, donc de la ferme. Eh bien, ça va ensuite s'inscrire et toute la richesse justement des micro-organismes va s'insinuer, s'insuffler dans le fromage. Et c'est justement, alors les micro-organismes vont peut-être avoir un rôle au début, au moment de l'égouttage, autrement ça sera peut-être au moment de l'affinage, enfin chacun va jouer un rôle à un moment, mais nous on part du principe que justement c'est cette diversité qui est source de richesse.
Et qu'il faut préserver à tout prix.
Exactement, parce que cette diversité-là, c'est une diversité qu'on retrouve après nous, dans notre microbiote à nous intestinal, dans notre second cerveau qui est le ventre. Et il y a donc un auteur absolument passionnant et je vous invite à le lire, c'est Marc-André Sellos.
Mais que nous avons reçu dans le Goût du Monde. On a
génial.
Fait toute une émission sur les tanins, donc c'est ça, on a la chance de pouvoir réécouter cette émission et réécouter justement Marc-André Sellos qui parle de cette microbiote extraordinaire.
Exactement, et c'est ça qui est une véritable richesse, c'est-à-dire qu'on a quasiment 3 kilos de bactéries, de micro-organismes en nous, et plus ce microbiote est diversifié, il est riche, il est complexe. Donc tout ça, c'est en mangeant. Bah nous, on parle notamment du gouel. Donc le gouel, c'est un lait fermenté, un gros lait fermenté au lait de vache bretonne pinoire. Bah ça, c'est une bombe microbiotique. Et ça vous fait un véritable bien de manger ce genre de produit parce que vous allez complexifier votre microbiote. Plus il va être complexe et riche, mieux vous allez digérer les aliments, mieux vous allez vous sentir. Et c'est vrai que voilà, les microbes sont souvent pointés du doigt, mais au contraire, il y a des bons et des mauvais microbes.
Mais on aime
et
bien.
Nous, on adore ça. Nous. Et nous, c'est vrai que ce qui est magique avec le fromage, c'est qu'on est des vecteurs de bons microbes et que bah, voilà, cette richesse-là, elle doit être préservée parce qu'en fait, c'est une richesse qui est bonne pour notre santé.
Vous parlez du gouel comme si tout le monde connaissait. Alors moi, j'ai la chance de connaître et de goûter. Qu'est-ce que c'est que le gouel et son histoire?
Le gouel, donc, c'est un petit peu à cheval entre le yaourt et le fromage blanc. Donc c'est un gros lait breton, c'est une préparation ancienne bretonne qui a failli disparaître et depuis une trentaine d'années, il y a donc des producteurs qui se battent pour garder et maintenir une production de gouel. Donc le gouel, il est fabriqué au lait de vache bretonne pinoire essentiellement.
Qui a failli disparaître aussi d'ailleurs, ça a été le fromage qui a permis aussi la préservation d'une race bovine. Ben,
ce lait, donc ce gros lait, ce lait fermenté qu'est le gouel, ça a permis également, c'est ça, d'avoir un débouché et de maintenir la bretonne pinoire puisque maintenir une race pour maintenir une race, ça n'a pas de sens. L'intérêt, c'est justement d'avoir un produit qui est porteur de ces valeurs-là. Donc c'est une race de vache assez particulière qui, au début du XXe siècle, était la plus répandue en France. Il y avait quasiment 900 000 vaches bretonnes pinoires. Et du fait de l'arrivée d'une vache beaucoup plus productive, qui est la Primolstein, eh bien, petit à petit, cette vache-là a disparu. Elle a failli vraiment ne plus être présente sur le territoire. Et dans les années 80, des passionnés se sont mobilisés pour justement la défendre. Et aujourd'hui, ce gouel, donc vous le trouvez en Bretagne, vous en avez quelques producteurs. Nous, on a la chance d'en avoir à la fromagerie. Il y en a aussi à Paris. Mais c'est vrai, c'est cette tradition des laits fermentés. Et ça, c'est des véritables bienfaits probiotiques qui sont très bons pour le corps.
Donc, hommage à Nicolas Guérin et Marika Ferrandini, si je vous ai bien
exactement,
lu.
Exactement.
Hein, qui sont bah, producteurs de ce gouel.
Et oui, ils sont donc Nicolas et Marika, ils se trouvent à côté de Nantes, du côté de Donge, dans le parc naturel de la Brière. Nicolas, c'est une personne pour qui j'ai une admiration extrêmement grande, puisque c'est quelqu'un qui... Pareil, c'est un reconverti, ce n'était pas du tout son milieu, il est devenu paysan, il a appris auprès des Suisses pour apprendre à faire ce qu'il appelle des beaux et des bons fromages. Et c'est vrai qu'avec Marika, ils ont ce courage de continuer à fabriquer du gouel, à fabriquer des fromages au lait de vache bretonne pinoire qu'on peut voir dans le livre et qui sont des fromages avec une pâte jaune absolument lunaire. Et puis c'est vrai d'avoir cette attention aux détails, puisque fabriquer du fromage, c'est justement ça qui est très complexe, c'est que l'aléa est partout et par conséquent, vous devez être attentif absolument à tous les paramètres. Et lorsque vous faites un vrai bon fromage, c'est lorsque vous acceptez que l'aléa soit présent et transmettre sa richesse, mais qu'en même temps, vous guidez le fromage dans une certaine direction. Et c'est ça qui est beau avec les fabrications de Nicolas Guérin et de Marika Ferrandini, c'est d'avoir justement une diversité qui est pleine et entière.
On élève le fromage, en somme.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Where did you go?
Le Milo de Billy Eilish sur RFI, vous écoutez le goût du monde et notre monde aujourd'hui est crémeux, onctueux, savoureux, vivant, identitaire aussi. Oui, nous explorons le monde fromager avec Augustin Denoux, crémier à l'ouest de Paris, à Boulogne-Billancourt et auteur aux éditions Ulmer avec Erwan Balança pour les photos de fromage sauvage que l'on lit un peu comme on boit du petit lait, je vous l'avoue. Ça vous ragaillardit, ça vous emballe, ça vous réjouit, ça vous met en grande forme, Augustin Denoux. Je vous le dis, ce livre est formidable. Je voudrais savoir, parce que c'est pas votre premier métier d'être crémier fromager, qu'est-ce qui vous a conduit justement à ce métier?
Et oui, c'est vrai que c'est un petit peu un pas de côté qui a été fait puisque j'ai eu la chance de faire des études de droit et j'étais plutôt destiné à devenir avocat. Et lors d'un séjour avec Marion, ma chère et tendre, en Écosse où on était parti marcher pendant quasiment 3 semaines, il y avait une chose qui nous manquait tous les soirs lorsqu'on rentrait sous notre tente, c'était de manger du fromage. Donc en revenant de ce séjour, je me suis dit, bon, c'est quand même étrange que j'ai une telle envie de fromage quasi quotidienne.
Je rigole.
Et j'ai tapé donc fromager sur le site de la NPE et je suis tombé donc sur une formation qui est en alternance à Paris, à l'IFOPCA, et qui permet donc en l'espace d'un an d'avoir des cours sur le fromage et puis en même temps d'exercer son métier dans une crèmerie fromagerie.
Là, vous nous conférez les coordonnées parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui se disent, tiens, et si je donnais un petit peu de sens à ma vie et que je faisais un métier avec mes mains, notamment, fromager peut-être une option. En tout cas, ça tente beaucoup, notamment quand on est à l'étranger. Il est évident, étranger plus français égale le fromage nous manque. L'un des plaisirs de votre métier aujourd'hui, c'est justement d'aller découvrir de nouveaux fromages, de nouvelles exploitations. Quel est votre sel du quotidien?
Et oui, la chance que l'on a, nous, en tant que crémier fromager, donc c'est un métier assez ancien et très multiple, mais qui un peu bénéficie de ce vent frais des reconvertis actuellement. Et c'est vrai que moi, mon plaisir avec Benoît, avec qui j'ai la chance de tenir les fromageries Escudier et toute l'équipe, c'est véritablement de retrouver des nouveaux fromages, des nouvelles saveurs. C'est véritablement ça qui nous anime. Et continuer à être un petit peu ce trait d'union entre la ruralité et le milieu urbain. Nous, on considère que ce métier de crémier fromager, c'est vraiment de proposer aux gens, voilà, on habite en ville pour X ou Y raison, mais on habite en ville. Et pour autant, on a envie d'avoir ce lien très précieux à nos origines, à nos terroirs, puisqu'on a tous de la famille qui a été vigneron, paysan, peu importe. Mais on a tous ce lien important au terroir. Et nous, en tant que fromager, on a vraiment ce rôle, je trouve, de transmission, de se dire, voilà, venez chez nous, venez vous régaler, on vous propose 150, 200 fromages différents, ils ont tous une histoire, ils ont tous une saveur particulière et vous allez pouvoir vous régaler avec ces fromages véritables. C'est ça, nous, notre chance en tant que crémier fromager dans des commerces de proximité, c'est d'être véritablement dans l'échange et dans ce partage qui est la plus belle chose du monde, qui est la nourriture. Et donc voilà, c'est ça qui est assez magique.
Quel est le fromage le plus connu, vous diriez, le plus apprécié?
Je pense que nous, notre expérience en boutique, c'est vrai que c'est le comté. Le comté, de façon assez...
Indétrônable comté.
Indétrônable, ouais, exactement, c'est ça le comté. Parce que c'est un fromage de garde et qui va avoir des saveurs qui vont évoluer, qui vont être très diverses. Et pareil, il y a énormément de terroirs autour du comté. Il y a nous, tous les ans, on va choisir directement avec notre affineur Marcel Petit, on va choisir les fruitières avec qui on va travailler pour l'année à venir, justement parce que en fonction des fruitières, en fonction du fromager, en fonction de la façon dont les équipes ont peut-être changé, eh bien les fromages ne vont pas avoir les mêmes goûts. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même sur des fromages où on pourrait se dire un comté, c'est un comté, eh bien non, vous avez une diversité absolument incroyable de saveurs, et c'est ça qui est très riche. Et aujourd'hui, nous, les comtés qu'on propose en boutique, mais comme dans la majorité des crèmeries que vous avez, voilà, c'est des choses où nous, on est extrêmement attentifs à ces saveurs, puisqu'on a envie d'avoir des produits accessibles et exceptionnels.
Notion climat, notion de saison également pour le fromage?
Oui, c'est extrêmement important, puisque souvent les plus beaux fromages sont fabriqués donc l'été, lorsque les bêtes sont à l'herbe. Après, voilà, c'est une règle qui a évidemment des exceptions. Ce qui est problématique actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de sécheresse en France, et c'est vrai que pour les producteurs, c'est compliqué. Les changements climatiques font que ils doivent adapter leurs pratiques pour justement continuer à avoir des fromages de qualité. Mais c'est vrai que les saisons des fromages, si vous avez des fromages sur les pâtes, comme les comtés par exemple, des fromages qui sont fabriqués l'été, du printemps jusqu'à au début de l'automne, c'est vrai que c'est là où vous avez le plus d'émotions. Oui.
En tout cas, ce fromage sur un plateau, c'est un peu un des piliers du repas gastronomique des Français, on est d'accord.
C'est une chance qu'on a et qu'on doit préserver, parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a les Italiens également qui fabriquent beaucoup de fromage, les Espagnols, les Portugais, qui ont cette tradition aussi fromagère assez importante, mais pour autant, nous ne sommes pas les plus gros fabricants de fromage au monde, hein, puisque...
On a une grande diversité. Pourquoi est-ce qu'on dit de nous qu'on est le pays du fromage ?
Je pense qu'on est le pays du fromage sur la diversité, puisqu'on a réussi, par des particularismes locaux, régionaux, à conserver ces fabrications-là et à ne pas les oublier. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple la fourme qui est évoquée dans le livre, qui s'appelle la fourme de Valcivière, donc c'est fait juste à côté d'Ambert. Cette fourme de Valcivière, ce sont donc deux paysans qui, dans les années 90, se sont inspirés des traditions locales, ancestrales, donc du plateau de Valcivière dans le Puy-de-Dôme, pour justement proposer une fourme qui est affinée pendant 6 mois, alors que la fourme d'Ambert est affinée pendant 1 mois, mais pour proposer un fromage qui était la fourme d'antan. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en France, on a cette capacité de régénération à partir de l'ancien, qui est assez extraordinaire. Et c'est peut-être ça qui nous permet d'avoir une telle diversité, garder justement vivante et dynamique ces traditions gourmandes.
Augustin Denoux, saviez-vous que le fromage est aussi un atout pour apprendre le français ? Le fromage, c'est un peu l'apéro de l'apprentissage, un outil précieux, comme nous l'explique Déborah Gros de RFI Savoie.
Le fromage, c'est un sujet accrocheur, puisque dès le niveau débutant, quand les apprenants découvrent le français, tout de suite, ils sont fascinés souvent par le fromage français. Donc c'est vrai que c'est pour les enseignants, c'est souvent un sujet incontournable dès les premiers cours. Et effectivement, il y a tout le vocabulaire à découvrir autour du fromage, le nom des fromages. Et dans tous les manuels de français, on trouve une page dédiée au fromage avec les photos, etc., les descriptifs. Et donc, sur RFI Savoie, on a aussi évidemment des ressources pour apporter un complément aux enseignants qui souhaiteraient aborder ce thème.
Comment est-ce que vous l'utilisez, ce thème, dans les cours que vous proposez, dans les exercices notamment ?
Comme pour tous les autres exercices et ressources qui se trouvent sur le site RFI Savoie, on part d'extraits d'émissions de RFI. Donc en fait, nous, on va aller traquer les émissions qui parlent de fromage et le goût du monde notamment, et on va choisir un petit extrait de 1 à 2 minutes, et puis on va poser des questions dessus. Il y a notamment un dossier sur RFI Savoie destiné aux personnes qui apprennent le français dans le cadre de leur métier. C'est le français professionnel. Et là, on va trouver des extraits, par exemple, sur parler d'une pâtisserie avec le baba au rhum. Donc là, on va avoir différentes questions à partir de cet extrait d'émission. Et puis après, il y a aussi des reportages qui ont été fabriqués pour les personnes qui apprennent le français. Et c'est une série qui s'appelle Parlez-vous Paris, qu'on retrouve aussi sur le site. Et là, c'est des reportages qui abordent des sujets culturels différents de la vie parisienne et de la vie française en général. Et évidemment, il y a un reportage dans une fromagerie aussi, avec un jeune Népalais qui découvre comment on goûte le fromage. Donc là, c'est sur les aspects plus culturels, on va dire.
Il est indispensable, évidemment, j'imagine, ce fromage sur une table française.
C'est sûr. D'ailleurs, tous les instituts français organisent régulièrement dans le monde des dégustations de fromage et de vin. C'est vrai que ça fait partie de l'accroche. C'est incontournable. Voilà.
Merci beaucoup. Une adresse qu'on peut rappeler, RFI Savoie, comment est-ce qu'on vous trouve ?
L'adresse, c'est savoir@rfi.fr.
Déborah Gros de RFI Savoie. Et ce fromage, donc, qui s'inscrit sur le plateau du repas gastronomique des Français qui fête ses 10 ans cette année d'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. Augustin Denoux, Fromage sauvage, c'est plus qu'un livre, c'est aussi un label.
Oui, une ambition qui est portée par le livre, c'est notamment de devenir un label, puisque aujourd'hui, ça n'existe pas pour les crèmeries fromageries. Il n'y a pas de distinguo à part le concours de meilleur ouvrier de France, mais vous avez... aujourd'hui, plein de crémiers fromagers, de crémières fromagères qui sont passionnés par le produit, font des belles choses, défendent les produits au lait cru, défendent les savoir-faire pastoraux, ont véritablement cette approche contemporaine, dynamique du fromage. Et l'idée de ce label fromage sauvage, c'est avoir des fromages au lait cru, avoir des fromages avec des races d'animaux à petits effectifs, comme la bretonne pinoire par exemple, ou par exemple un minster au lait de vache vosgienne, enfin plein de choses. Et voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et puis peut-être qu'un jour, ça sera, en effet, vous rentrerez dans une crèmerie en vous disant « Je suis content, je suis dans une crèmerie fromage sauvage ». L'idée de ce livre, c'est véritablement d'être un point de départ pour défendre et proposer un imaginaire nouveau qui est justement des gens qui fabriquent des beaux et des bons fromages, c'est un petit peu ça notre souhait.
On l'a bien dit, hein, c'est un délicieux manifeste. C'est pour ça qu'on aime bien pouvoir s'en faire l'écho, c'est une chance pour nous. C'est la fin déjà de cette émission. Mais j'ai un ingrédient, un ustensile à vous demander.
Alors, l'ingrédient, pour moi, c'est le cacao. Alors, le cacao, ça peut paraître
très bon choix.
Peu étrange. Mais c'est vrai que, un petit peu comme le fromage, il existe des dizaines de cacao différents, de chocolats différents. Et il y a des alliances à faire entre chocolat et fromage. Pour moi, l'une des plus réussies que j'ai pu goûter, c'était un époisse fermier avec un chocolat à 70%. Ça, c'était absolument divin. Et puis, j'ai aussi un souvenir particulier d'une dégustation dans une famille qui nous avait accueillis, qui fabrique des reblochons fermiers. Et avec Marion, donc on était chez eux. Et le matin, ils nous ont donc proposé, à côté du reblochon matinal, il y avait donc un bol de cacao. Ils nous ont dit, allez-y, trempez votre reblochon dans le cacao, dans le lait chaud. Et ça, c'était absolument génial. Ça peut paraître étrange, ça fait un petit peu le maroilles trempé dans le café, mais je vous assure que le reblochon trempé dans du chocolat chaud, c'est super.
Moi, je voudrais que vous me parliez de cet ustensile.
Oui, alors l'ustensile, c'est ce qu'on appelle la boutonnière.
C'est un ustensile ou un geste plutôt ?
C'est un geste, puisque le fromage, c'est un peu de la couture, voire même de la haute couture. Donc ce geste, qui est en apparence assez simple, c'est pour moi l'un des plus beaux mouvements fromagers, puisqu'en fait, en une fraction de seconde, la fromagère ou le fromager sait. Il va savoir si le lait liquide est bien devenu solide et il peut désormais le transformer en fromage. Donc ce geste, c'est... Il faut revenir au début, hein, donc le lait, on va le faire chauffer ou pas, mais on va mettre un petit peu de présure, il va devenir solide. Et la boutonnière, c'est lorsque le fromager ou la fromagère va mettre son doigt propre, évidemment, dans ce flan un peu solide, et d'un seul geste, voir si l'arête, la ligne de coupure est absolument nette, et si elle est nette, eh bien, il peut continuer à fabriquer, donc en tranchant son cahier, en le brassant, etc. Enfin, toutes les étapes de fabrication.
Toutes les autres procédures dont on n'a pas parlé. Il faudra nous dire, c'est possible de faire son fromage chez soi?
Alors oui, vous pouvez faire votre fromage chez vous. Il existe plein de guides qui vous invitent à faire le fromage chez vous. Il y a notamment un très bon livre de Pierre Coulon qui parle de ça, de comment faire son fromage chez soi. Après, c'est un métier, il y a un savoir-faire, il y a plein de choses. Je ne doute pas que le fromage que vous ferez chez vous sera excellent. Après, il y a tellement de beaux fromages dans les crèmeries fromageries que vous avez l'embarras du choix.
Ce serait dommage de s'en priver. Donc, vous allez tout de suite répondre à ma question. De fromager crémier à berger qui part en transhumance, le pas reste à sauter ou vous ne l'envisagez pas?
Peut-être un jour, mais je suis tellement admiratif justement de ces bergers, de leur travail de pastoralisme qui entretiennent nos paysages, puisque c'est grâce à ces gens qui sont en montagne et qui ont leurs troupeaux, nous permettent d'avoir des montagnes vivantes et des montagnes qui ne se referment pas avec des forêts inaccessibles. Et bien justement, grâce à ces troupeaux, et bien on a des coins merveilleux en France, hein, que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans les Pyrénées. Voilà, vous avez notamment un jeune homme qui s'appelle Carnet de Berger, que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux, qui parle de cette passion de berger, et moi je trouve ça absolument magnifique.
On a lancé un quiz au tout début de cette émission pour gagner un livre « Fromage sauvage ». Donc, Augustin, ce quiz, première question en 2017, je vous écoute.
Alors, en 2017, quel pays est le plus grand fabricant de fromage au monde?
Question 2, dans quel pays africain fabrique-t-on aussi du camembert? Question 3,
quel pourcentage des fromages fabriqués en France sont au lait cru?
Voilà, 3 questions, 3 réponses et vous avez jusqu'à demain soir, dimanche, pour nous répondre sur RFI.fr. Merci beaucoup, Augustin.
Merci beaucoup, avec plaisir.
Vous reviendrez nous parler de fromage encore?
Ah bah, ce serait un vrai plaisir.
Merci infiniment pour ce voyage et les découvertes. Fromage sauvage est publié aux éditions Une Mer. C'est un livre magnifique. Un manifeste pour le vivant et le respect de la terre pour lequel nous militons ici aussi. Pour vous rencontrer, Augustin, parce que je suis sûre que vous avez des fans, il suffit de se rendre à Boulogne-Billancourt. C'est à l'ouest de Paris. Vous avez 2 adresses. La première, c'est au 44 rue Escudier dans le nord, 101 rue du Point du Jour. Ça, c'est au sud de Boulogne-Billancourt. Et j'espère que cela aura donné, bien sûr, des idées à ceux qui nous écoutent. Et si vous nous racontiez ce que fromage évoque pour vous, quel est votre fromage préféré, celui dont vous êtes accro, que vous souhaiteriez peut-être partager avec nous, peut-être des envies de fromage ou de nouveaux métiers, racontez-nous sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Cécile Bonici a réalisé ce Goût du Monde, merci à elle, merci à vous de nous être fidèles et d'être à l'écoute en podcast ou en direct. En tout cas, nous vous souhaitons à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous.